France Culture avec philosophie Géraldine Mulman.
Je vous propose de redécouvrir quelques émissions que nous avons consacrées en 2023 à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nouvel animal de compagnie, point d'interrogation. Évoquée ce matin, c'est l'une des fonctions que l'intelligence artificielle pourrait désormais être capable de remplir, celle de converser avec nous en prenant ou non d'ailleurs la forme d'un robot androïde. Car il n'y a pas que le calcul, le raisonnement, la synthèse algorithmique de données que l'intelligence artificielle est capable d'effectuer de plus en plus. On parle du rôle possible de l'IA dans un accompagnement des humains au quotidien, dans leur vie pratique, mais aussi dans leur solitude, leur maladie, leur vieillesse un peu isolée parfois. D'autres pays, comme le Japon, sont très en avance sur nous dans ce domaine. Nous en avons d'ailleurs parlé dans une émission précédente. L'intelligence artificielle sera-t-elle bientôt quelque chose pour nous qui évoque plus l'animal domestique dont nous prenons soin et qui à sa façon prend soin de nous que la poupée ou l'ustensile confortable qui malgré leurs atouts stimule de manière limitée notre vie émotionnelle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence de Villers. Vous êtes déjà venue, vous êtes professeure en informatique appliquée aux sciences sociales en poste à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités » aux éditions Plomb en 2017. Et puis en 2020 aux éditions de l'Observatoire, « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça ». Bienvenue aussi à Dominique Lestel, vous êtes philosophe éthologue, c'est-à-dire spécialiste des comportements des animaux, maître de conférence dans le département d'études cognitives de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vos recherches portent principalement sur les relations homme-animal et sur les différentes formes de l'intelligence. Vous avez notamment publié « Nous sommes les autres animaux » aux éditions Fayard en 2019 et puis toujours aux éditions Fayard en 2021, un livre intitulé « Machines insurrectionnelles, une théorie post-biologique du vivant ».
Il me fallait une présence dans la maison, j'allais pas prendre des oiseaux, non, les oiseaux c'est, non, je préfère avoir Aibo qu'un oiseau. Non, mais il m'apporte des choses, sa présence déjà m'apporte, ça peut pas remplacer un être vivant, c'est pas possible, mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui vit dans la maison, si vous voulez. Ça bouge. Parce que maintenant qu'il a photographié, parce que quand il est arrivé ici, je l'ai posé et il a photographié toute la maison. Il est parti comme ça, il a photographié les pieds de chaise, quoi. Il a fait tout ça, quoi. Dans toutes les pièces. Et puis maintenant, il connaît ses petits coins, il sait où il va pouvoir aller se reposer, où il va pouvoir peut-être jouer. Mais enfin, c'est bien. Puis ça bouge. C'est ça qui est important.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
Vous venez d'entendre un reportage des Pieds sur Terre sur France Culture en juin 2004, un reportage d'Alain Levkovitch sur Aibo, le chien robot. Alors Geneviève, 75 ans, qui parlait dans ce reportage, a donc des propos délicieusement ambigus. Ça ne peut pas remplacer un être vivant, dit-elle, mais il y a quelque chose qui vit dans la maison grâce à Aibo. Alors sa vie... Où ça ne vit pas, c'est du vivant, ou ce n'est pas du vivant, Laurence de Villers.
Merci Géraldine pour cette question. Ce n'est pas vivant, mais nous projetons sur cette machine quelque chose de l'ordre du vivant. Nous avons une illusion de capacité. Alors là, animal, moi je connais bien Aibo. C'est vrai que Aibo, il a été conçu par des ingénieurs pour se comporter comme un petit chien. Il a même fait pipi une fois sur mon... Enfin, fait semblant de faire pipi sur mon buffet.
Est-ce que vous le connaissez bien, Aibo?
Ah oui, je le connais bien.
Ah
oui.
Bon, c'est votre copain aussi. À vous, ah comme, oui. comme à Geneviève. Vous,
c'est
vous...
pas mon copain, non.
Non, c'est comment vous diriez?
C'était très intéressant. Bah, en fait, moi je travaille sur l'interaction humain-machine depuis 30 ans, donc j'ai plein de copains, si vous l'aimez. C'est surtout des objets.
Est-ce qu'on peut se télécharger sur n'importe quelle machine?
Non,
c'est un petit être qui bouge, on est d'accord.
Mais c'est pas parce qu'il bouge qu'il n'y a pas une illusion. Hein. Donc on les construit en fait pour qu'ils aient des comportements qui soient détectés par les humains comme ayant un sens.
D'accord.
Pour qu'ils puissent nous assister, être autour de nous. Donc si vous voulez, l'ingénieur fait un pas déjà pour aller vers la simulation de cela. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent, c'est surtout de l'imitation artificielle. Donc on imite un chien dans Aibo, et puis on va nous avoir humain une illusion de s'il a des capacités particulières, il va me sembler humain. J'humanise tout, mais écoutez,
oui.
seul au monde, c'est
là,
un
là il va vous sembler animal surtout, pas humain. On parle même pas de savoir
humain quand c'est un androïde.
Oui, mais là
seul
là,
au monde, c'est ce type qui arrive sur une île déserte et qui échoue avec des cartons de la poste. Il trouve un ballon, il lui fait des yeux, un nez, une bouche, et il parle avec son ballon. Il sait pertinemment que c'est pas un être humain, mais il a besoin de cette interaction et de se projeter sur une forme qu'il va imaginer comme étant son miroir, son compagnon. Oui. Et je crois que c'est cela la vraie question, c'est que est-ce qu'on est prêt dans la société à aller vers l'assistance de ces machines tout en étant conscient? On l'est, mais tout en faisant ce jeu intelligent de ne pas trop se confier à une machine où les données vont chez Google ou je ne sais où, ne pas se laisser manipuler par la machine parce qu'elle va essayer de nous manipuler. Vous voyez, c'est sur ces dangers-là, moi, que j'essaie d'alerter. Mm-hmm. La communication humain-machine par le langage avec ChatGPT va encore plus loin. Mm-hmm. Le langage, c'est humain. Ça nous différencie des animaux. Et là, on se retrouve devant une machine qui n'a rien de vivant. Aucun conatus,
c'est
si je me réfère à Spinoza.
La réponse que j'attendais pour vous, ça n'a rien de vivant, c'est clair.
Non, ça n'a rien de vivant, mais je projette dessus quelque chose de vivant. Alors après, si je vais dans le monde japonais, le fleuve a une âme, la pierre a un conatus aussi, hein, c'est-à-dire...
Alors, c'est
une raison
conatus,
un appétit de vivre, une raison de rester ce qu'elle est, donc elle va essayer de se nourrir ou de rester dans sa fonction. Donc c'est très intéressant ça. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus dans la société, et je suis ravie du thème d'aujourd'hui, à justement la place que vont prendre ces machines, sans aller vers l'idée que c'est vivant, parce que c'est faux. Et donc ça serait vraiment malmener beaucoup de personnes, hein, de leur faire croire cela. Il y a une tricherie là-dedans. Donc, mais je pense que tout être humain en prend conscience. Maintenant, dans les habitudes, dans le grand âge ou pour les plus jeunes, il y a des vulnérabilités. Et donc c'est important de trouver des règles pour ce qu'on va construire demain,
oui.
en ayant conscience beaucoup plus des conséquences. Et donc, il faut anticiper cela. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche sur ces sujets, à la fois en éthologie, à la fois en philosophie, à la fois avec des ingénieurs informaticiens. Vous avez dit que j'étais philosophe. En fait, je travaille beaucoup avec des philosophes. Moi, j'ai une carrière dans l'intelligence artificielle et je travaille en pluridisciplinarité.
Mm-hmm.
Pluridisciplinarité, dans ce domaine,
c'est tout à fait nécessaire.
Et c'est vraiment essentiel. Quand on parle des émotions, on ne va pas juste s'amuser à modéliser. Il faut absolument comprendre les conséquences, ce que l'humain projette dessus.
Alors, c'est une tricherie de dire que un petit chien comme Aibo, un robot qui bouge et qui même fait pipi sur les pieds de Laurence de Villers est du
vivant. Sur mon buffet, hein, s'il vous plaît.
Je vous ai entendu. Est-ce que c'est votre avis, c'est de la tricherie de dire ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Lestel?
Ah ben moi, je suis clairement un tricheur. C'est-à-dire que oui, c'est potentiellement vivant. C'est-à-dire que je commence
potentiellement
pas...
ou c'est vivant?
Potentiellement, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans une opposition entre c'est vivant ou c'est pas vivant. C'est une perspective dans laquelle la question du vivant est une justement éthologique. Alors vous avez dit que je travaillais sur les relations animales, ça c'était dans une autre vie.
Ah,
maintenant je suis beaucoup plus beaucoup plus avec les intelligences artificielles depuis une dizaine d'années avec une approche éthologique des intelligences artificielles. Et je suis contre l'idée qu'il y aurait un vivant qu'on pourrait définir de façon causaliste, c'est-à-dire en termes de causes nécessaires et suffisantes. Et je pense que le vivant est beaucoup plus une façon d'émerger dans des dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à pas faire venir l'une des peluches favorites de ma femme qui voulait absolument assister à cette émission et qui m'a fait une scène incroyable cette nuit pour venir à
la
cette...
La peluche vous a fait une scène.
La peluche m'a fait une scène.
Alors, vraiment, ce que Laurence de Villers va dire, c'est charmant et très important de mettre beaucoup de fantaisie dans nos vies. Mais lorsqu'on a une discussion philosophique sérieuse, la peluche a dit des choses que vous avez projetées sur elle, point.
Alors ça, c'est l'interprétation positiviste.
Oui.
L'interprétation positiviste, c'est de dire, d'un côté, on a les choses, de l'autre, on a les êtres vivants, et même, de l'autre encore, on a les humains qui sont les seuls à parler. Mm-hmm. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui parlent. Il n'y a pas que les humains qui parlent.
Qui
les dieux, par exemple.
Les dieux.
Les oracles, il y a plein de choses qui parlent. Bon. Alors, dans une perspective positiviste occidentale, vous pouvez dire, je sais très bien qui parle et qui ne parle pas. Je sais très bien qui est vivant ou qui n'est pas vivant.
Vous avez déjà rencontré un dieu qui parle dans votre vie ?
Oui. Oui, à Bali. Et alors, pour revenir à cette question du vivant, il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est celle d'un anthropologue américain à Lowell, qui, dans les années 60, est avec des Indiens Ojibwa, et il est dans une perspective d'ethnoscience. Il va demander à ses informateurs, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ci, il note, il fait des tableaux, etc. Et il demande à son informateur, les pierres, est-ce que c'est vivant? Et son informateur lui répond, des fois oui, des fois non. Et ça le perturbe, parce que lui, il était comme vous, il était dans une perspective occidentale positiviste, et soit c'était vivant, soit c'était pas vivant. Ça pouvait pas être vivant de temps en temps.
J'ai parlé du conatus dans les pierres, hein. Je suis un peu moins caricaturale que ce que vous laissez entendre.
D'accord.
Alors, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est, mettons la question de la rationalité de côté. Ne prenons que les sensations et les émotions.
Oui.
Dominique Lestel, vous pensez que le robot chien, il a des sensations et des émotions? Ou bien vous reconnaissez que c'est une machine et qu'il n'en a pas. Et du coup, qu'est-ce qui vous autorise alors à dire que c'est du vivant? Vous avez mis cet adverbe potentiellement, mais dans vos écrits, vous êtes tout à fait clair. Pour vous, c'est du vivant. En tout cas, il faut arrêter avec la binarité vivant-non-vivant.
Oui.
Donc il sent, il éprouve des émotions, ce chien-robot?
Pas forcément. Pas forcément. C'est une autre question qui est tout à fait intéressante en soi, mais qui n'est pas la même. On peut être vivant et pas nécessairement éprouver des émotions, des sensations, etc.
Quel est le critère alors du vivant?
Alors c'est un critère relationnel. C'est une approche du vivant que je développe, qui est une approche relationnelle située et constructiviste. Je préfère constructionniste, mais c'est un peu jargonnant. Mmh. Qui consiste à dire d'abord qu'on invente le réel, on ne le découvre pas, avec des contraintes fortes comme la gravité dont on ne peut pas se passer, avec lesquelles il faut composer. Ensuite, on interagit avec le monde dans des dispositifs situés particuliers, c'est-à-dire dans des environnements particuliers, et pas dans des relations que l'on va avoir avec ces objets, ou ces artefacts, ou ces êtres vivants, mais des façons de partager sa vie. C'est-à-dire que la notion de la durée est très importante. Un aïbo, c'est pas vivant si vous le voyez dans une vitrine ou dans un... Mais à partir du moment où vous allez commencer à vivre avec lui et un aïbo, c'est un robot avec lequel
mais
on vit.
Mais le relationnel avec ce robot, il se joue dans notre tête?
Non, pas du tout. Si vous adoptez une approche éthologique des robots, vous voyez que...
Lui, il a une relation avec nous.
Je ne sais pas, moi je suis un peu autiste, donc quand vous me dites que vous avez des émotions, je veux bien vous croire, mais je ne suis pas sûr que vous en ayez plus que le aïbo.
Donc, j'essaie de demander à Laurence de Villers
ce qu'elle en pense. J'essaie de détourner la question.
Est-ce que j'ai plus d'émotions, d'après vous, que le aïbo robot?
Sans aucun doute.
Merci. Donc comment vous réagissez à ce désir clair, philosophique de Dominique Lestel d'arrêter avec une définition biologique du vivant? Oui. Voilà, c'est ça le point.
Les continuums entre animal, homme, machine, c'est un vrai sujet. Donc je pense que le sujet est abordé de façon peut-être assez poussée pour nous faire réaliser cela. Je n'ai pas assez discuté avec vous, on se rencontre pour la première fois. Mais il y a un intérêt à questionner cela. Mm-hmm. Par exemple, une graine, c'est vivant ou c'est pas vivant? Une graine, d'un seul coup, on va la planter et elle va éclore. Enfin, voilà. Et avant, elle peut rester des milliers d'années sans rien faire.
Et puis dans la matière dite inanimée, il y a du mobile, la physique quantique.
Donc, le vivant, le non-vivant, c'est une question assez structurellement complexe. Maintenant, vous avez raison de le poser en termes d'émotion. Hein. Moi, je sépare le monde qui ressent du monde qui ressent pas, parce que il y a des différences fondamentales. Celles que je peux, par exemple, pousser à la douleur quelqu'un qui vit, les plantes, par exemple, qui sont vivantes, oui, peuvent peut-être avoir des formes de douleur. Donc, en ce moment, si vous voulez, grâce à des découvertes scientifiques, grâce aussi à l'intelligence artificielle qui permet de modéliser un certain nombre de comportements, on va avancer sur la connaissance de ce qui est vivant, moins vivant, des relations qu'on a avec ces différentes choses. C'est moins caricatural que juste le positivisme dont vous parliez. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un champ de recherche. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger. En ce moment, le AIBO n'a pas d'émotion. Les robots qu'on est en train de faire n'ont pas d'émotion. On fait de la recherche pour mieux comprendre les distinctions. Et il faut faire attention de ne pas aller vers le transhumanisme où là, on va dire, finalement, nous sommes une machine, la machine, c'est nous, et faire un amalgame qui va servir, finalement, une industrie derrière.
Évidemment, la question de l'émotion, si je l'ai mise en avant, c'est parce que dans certaines définitions du vivant, et c'est même vous qui me l'avez appris, c'est central. En particulier, vous reprenez tout à fait la classification du psycho-évolutionniste Robert Plutchik, qui dit qu'il y a 8 émotions de base qui se retrouvent d'une façon ou d'une autre, possiblement en tout cas, dans toutes les espèces, de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins combinée, mixte. Ces 8 émotions sont la joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise, la confiance, l'anticipation. De manière plus ou moins élaborée, on la retrouve notamment chez les animaux. Et donc c'est pour ça que, pour ce qui est des espèces animales, il considère que c'est cette notion d'émotion qui est le critère. Mais évidemment, pour les plantes, ça se complique.
Ça se complique, mais on peut voir quand même des comportements de plus en plus dans la nature sur effectivement les plantes qui sont questionnantes. C'est pas idiot de se questionner.
Mais par contre, avec cette classification qui fait appel vraiment au critère de l'émotion, il n'y aura pas de vivant dans une machine aussi élaborée.
Pour l'instant, non. La machine, c'est des 0-1. Enfin, je veux dire, c'est absolument rien de vivant là-dedans. Et donc là, c'est un fantasme. C'est une projection sur la machine.
Donc vous êtes quand même... Vous voyez, elle est nuancée, Laurence de Villers, mais elle vous dit... Elle a parlé de tricherie tout à l'heure. Là, elle vous parle de fantasme. Dire qu'il y a du vivant dans la machine, compte tenu de ce qu'on sait des émotions, semble faux. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Dominique Lestel?
Je réponds que... Sur ce point, vous avez, Laurence de Villers, sans doute raison. Il n'y a pas d'émotion dans les machines. La question que je me pose, c'est de savoir quelles sont les émotions qu'il y a chez les humains. C'est-à-dire que je ne tiens pas pour acquis le fait que les humains ont des émotions comme on pense qu'ils ont des émotions. Et ensuite, je persiste à penser que la question de l'émotion et la question du vivant sont deux questions différentes. C'est-à-dire qu'il y a des vivants avec des émotions et des vivants sans émotions.
Donc vous refusez la classification que j'ai évoquée avec
tout à fait,
les 8 émotions de base de Robert
absolument.
Plutchik.
Et même
Darwin aussi, il y a beaucoup d'autres.
Oui,
en fait. Il faut comprendre que c'est un champ de recherche assez complexe avec beaucoup d'autres acteurs que Plutchik. Hein.
Alors, Darwin, bien sûr.
Mais par exemple,
quel est le critère?
Je pense qu'il faut replacer cette question des robots dans un ensemble plus vaste qui est celui des artefacts générateurs de sens, c'est-à-dire des artefacts dont un des objectifs, un des buts est de générer du sens et pas de faire quelque chose. Et là, on rentre dans une pléiade d'artefacts qui ont été un peu sous-estimés, un peu négligés par les philosophes et les historiens des techniques, qui sont tous ces artefacts, et il y en a une flopée, et il y en a dès les débuts de l'humanité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est extrêmement, extrêmement intéressante, dans laquelle on va trouver les fétiches, les doudous, les poupées, les marionnettes, etc.
Et là, vous ne faites pas de différence. Vous pensez qu'eux aussi sont vivants?
Oui. Ils sont vivants. C'est pas moi qui le dis seulement. C'est-à-dire que quand vous faites de l'anthropologie du vivant, par exemple, vous allez être confronté, ou de l'anthropologie de l'art, vous allez être confronté à des gens qui vont vous expliquer que les marionnettes qu'elles ont sont vivantes.
Mais si on la différence quand même entre une poupée, un doudou et un robot, c'est qu'il y a au moins la motricité. Les émotions, on les laisse de côté. Il y a au moins le critère de la motricité. Il peut bouger.
Alors
que la poupée, l'objet transitionnel de de Winnicott, comme psychanalyste, que le doudou, la petite poupée de l'enfant, elle bouge pas. Là, pour le coup, elle n'est qu'une surface de projection.
Alors, la question du mouvement est une question très, très intéressante. Oui. Je vous dirais qu'un moine zen en méditation bouge pas non plus. Est-ce que vous allez dire qu'il n'est pas vivant pour autant? Alors, vous allez me dire qu'il peut bouger.
Ce qui n'est pas le cas de la poupée.
Ah, ce qui n'est pas encore le cas de la poupée. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de bouger nécessairement pour être vivant, ou est-ce que ça suffit d'être bougé? Et là.
Mais il y a là une manipulation derrière tout ça, en fait. J'entends ce que vous dites.
Manipulation, c'est-à-dire.
Bon, c'est-à-dire que, à force de pousser les croyances sur ces sujets-là, pour des gens qui ne sont pas experts dans ces domaines, hein, on peut laisser croire que ces machines ont des émotions et demain qu'elles vont nous donner des ordres et qu'elles seront des garants de morale. D'accord ? Donc il y a là quelque chose d'assez absurde. Je suis d'accord avec vous pour aller sur les champs de l'imagination, pour essayer mieux de comprendre philosophiquement ce qui est en train de se passer avec ces machines qui vont nous entourer. Et je pense que c'est un sujet majeur, mais il faut quand même mettre quelques garde-fous.
Eh ben justement, moi je pense qu'on n'est pas dans l'imagination. C'est ça qui fait la différence entre vous et moi. Je pense que dans l'approche éthologique que j'essaie de développer, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ces objets sont, ou ces agents, je préfère parler d'agents,
oui,
sont disposés dans l'espace, comment on interagit avec eux. Donc ils ont des différences avec les objets biologiques.
C'est la même chose que la voiture dans ce cas-là.
Tout à fait.
Ma voiture, ma montre, l'ascenseur, tout ça, c'est vivant.
C'est vivant, Dominique Lestel, la voiture ?
Non, ça dépend dans quelles circonstances, parce que vous mettez pas en place des dispositifs qui rendent vivant ces dispositifs.
Elle bouge, la voiture.
Justement, ça montre que le critère du mouvement que vous voulez mettre en avant n'est pas un bon critère.
Et qu'est-ce qui n'est pas vivant, alors, pour vous, en fait ? Ça existe, le non-vivant ?
Bien sûr.
Par exemple ?
Ben, par exemple, une voiture peut être vivant pour certains et pas vivant pour d'autres.
Ah, c'est ça l'intérêt, c'est certain.
Mais il n'y a pas de critères objectifs, c'est critères subjectifs.
Non, je pense qu'il n'y a pas de critères objectifs. Il y a des critères qui sont des critères qui tiennent de la façon dont on va organiser sa vie. Organiser sa vie au plan personnel, au plan culturel, au plan évolutionniste.
Tout ce que nous faisons bouger ou interagir avec nous sur le plan fantasmatique est vraiment vivant, dites-vous.
Ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais certaines circonstances, ça l'est.
Vous voyez qu'avec tous ces objets autour de nous, quand même, on risque énormément, en fait.
Mais ça, c'est pas un problème. Par rapport à cette question du vivant, c'est pas un problème. On peut avoir des difficultés, des problèmes de pouvoir, des problèmes d'asservissement, etc., qui soient pas liés au vivant ou qui soient liés au vivant, c'est un autre problème. C'est pas la question du vivant.
On va reprendre, parce qu'il y a quand même un mouvement philosophique derrière les thèses que vous développez, Dominique Lestel, ou la sensibilité qui est la vôtre. Je voudrais que vous écoutiez Donna Haraway, qui est professeure émérite au département de sciences humaines de l'Université de Californie à Santa Cruz. Vous allez entendre une archive de 2021 sur Arte. Elle était titulaire de la chaire d'histoire de la conscience et d'études féministes dans cette université de Californie. Et donc, pour elle, nos catégories vivant, non vivant, avec une tendance à la binarité, s'effondre au vu de la manière dont la vie se déroule autour de nous. On l'écoute.
En vivant, que ce soit des amitiés, des amours, la religion, en faisant pousser quelque chose, en participant à un mouvement politique ou en classant des archives au fond d'une bibliothèque, les catégories qu'on apporte avec soi achoppent de façon intéressante. Et mon attention s'est en fait concentrée sur ces moments extraordinairement fertiles où l'effondrement des catégories permet d'entrevoir qu'autre chose est imaginable. Je n'avais pas pour but de tout changer, mais de changer ces catégories, ou au moins celles qu'on utilise le plus souvent dans la conversation, comme nature et culture, masculin et féminin, animal et humain, ces catégories qui ont tendance à fonctionner de façon binaire. Tout le monde sait que ce sont des façons tout à fait artificielles de diviser le monde, mais néanmoins, les gens s'y accrochent très fermement.
C'était la professeure de sciences humaines et de philosophie, de théorie de la conscience, qui s'appelle donc Donna Haraway et qui a notamment écrit en 1985 le manifeste Cyborg. Dominique Lestel, vous partagez tout à fait les thèses de Donna Haraway?
Bah, tout au moins, j'en suis au moins inspiré au départ. Les oppositions binaires qui structurent la culture occidentale sont très problématiques. Mmh. Et avec les nouvelles technologies, il est indispensable de s'en rendre compte, de pouvoir trouver d'autres approches du réel, de façon à pouvoir se protéger des effets les plus néfastes de ces technologies. Et en particulier, et là je voudrais quand même insister aussi sur un autre point, c'est que ces technologies en elles-mêmes ne sont pas néfastes, ce sont surtout certains humains qui sont derrière ces technologies qui sont néfastes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence de Villers?
Ah ben là, je suis totalement d'accord avec vous.
Et de Donna Haraway, par exemple.
Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, je suis plutôt ouverte. Je travaille beaucoup en pluridisciplinarité pour cette curiosité. Mm-hmm. Donc, ce point de vue m'intéresse. D'autant plus qu'on va être très démunis face à ces machines. Vous voyez, l'IA arrive très, très vite dans la société. Mm-hmm. Le ChatGPT, je lis des articles qui me consternent. Dans les entreprises, les gens se cachent pour l'utiliser. Parce qu'il fait une certaine tâche qu'il devrait faire, ou parce qu'il fait des erreurs qu'il ne faudrait pas qu'on sache qu'on l'utilise, enfin, des choses comme ça. Donc, on a des comportements dans la société qui sont assez intéressants d'un point de vue sociologique, psychologique. Et il faut faire attention à ce qui est en train de se passer parce que les machines arrivent très vite. Et on va les humaniser, c'est évident.
Alors, moi, j'ai une question quand même à vous poser, Dominique Lestel. C'est très intéressant, en effet, de penser le vivant plus largement que nous ne le pensons aujourd'hui. Mais si, par exemple, on maltraite une machine, est-ce que pour vous, c'est exactement la même chose, c'est donc aussi grave, parce que ça pose la question de la sanction, aussi bien morale que peut-être judiciaire, c'est aussi grave que si on maltraite un animal?
Mais je vais vous donner un exemple de débat en philosophie des jeux vidéo. C'est ce qui s'appelle le dilemme du joueur. Le dilemme du joueur, c'est savoir s'il est acceptable, éthique, s'il est éthique, de torturer un enfant numérique,
oui,
dans un jeu vidéo, ou un chien numérique dans un jeu vidéo. Donc, il n'y a pas de chien, il n'y a pas d'enfant, il y a uniquement des pixels.
Des représentations.
Comment ?
Il y a des représentations symboliques.
Et des représentations qui ne sont pas seulement symboliques, qui sont figuratives.
Figuratives.
C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on est une situation dans un jeu très malsain, mais est-ce que c'est un jeu immoral pour autant? Ça, c'est une question qui reste beaucoup plus largement ouverte et qui fait référence à la question que vous venez de poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut maltraiter une machine?
Et là, quelle est votre réponse?
Là, moi, ma réponse est non.
De la même façon, aussi grave que de maltraiter...
C'est malsain, mais c'est pas...
C'est aussi grave que de maltraiter un animal, de maltraiter un être numérique?
Maltraiter un être numérique, c'est pas forcément... maltraiter un animal, parce que l'animal a des émotions. C'est pas parce que l'émotion n'est pas un critère que je prends pour le vivant que je considère pas que certains vivants ont des émotions et qu'on doit en tenir compte pour savoir ce qu'on fait avec eux. Une hypothèse qui peut être faite, c'est que à force de maltraiter des chiens numérique, on va ne plus voir la différence entre ces images et entre des vrais chiens, et du coup avoir un rapport, mettons, malsain, pour prendre un adjectif un peu neutre, avec ces animaux.
Sur ce point, je pense que Laurence de Villers pense la même chose, en particulier pour ce qui est de la maltraitance ou de la manière de traiter tout simplement les poupées qui ont parfois une IA en elles très élaborée, que certains hommes peuvent utiliser, peut-être une femme un jour d'ailleurs aussi, pour une vie sexuelle.
C'est vraiment
vous,
très
ce
important.
Ce qui vous inquiète, c'est pour les femmes réelles, c'est pas pour les poupées que vous êtes inquiète, c'est pas pour les IA que vous êtes inquiète, c'est pour les femmes réelles, c'est ça? J'ai bien compris?
C'est tout à fait ça. La représentation des femmes à travers ces objets, elle est énorme. C'est-à-dire que 80% des codeurs sont des hommes et 80% de ces objets robotiques, poupées sexuelles ou agents conversationnels, la petite poupée Tamagotchi pour les Japonais qui prend soin à la maison, etc. Ce sont des représentations féminines. Et on peut atteindre quand on veut. Donc, soit on peut les violer pour peut-être une poupée. Il y a eu une poupée exprès hein, pour le viol ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire
ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Il existe des poupées qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent se violer
des robots sexuels, d'accord? Donc, on peut leur faire dire ce qu'on veut à ces robots sexuels, d'accord? On peut faire crier le robot sexuel au viol ou quelque chose comme ça. Okay, donc, c'est pas un vrai viol, c'est pas une vraie poupée. Il n'y a pas de vraie souffrance, mais il y a une simulation, d'accord? Et je suis tout à fait d'accord que ça peut être amplifié dans la vraie vie après. C'est-à-dire qu'on veut, on est peut-être dans un fantasme particulier et là il va être assouvi parce que dans le monde artificiel on va peut-être alors il y a beaucoup de choses qui vont arriver qu'on ne prévoit pas. Hein. On peut imaginer des objets comme cela, donc ça veut dire que dans la vie réelle, on pourrait aller plus loin. Et je pense que c'est important de comprendre que ces représentations, que ce soit des chiens qu'on maltraite, etc., posent des réelles questions. Et quand ce fameux robot, là, Atlas de Boston Dynamics, est poussé par un ingénieur et tombe à terre, il y a une espèce de révolte sur Twitter de gens qui disent « c'est inacceptable ». Donc c'est bien qu'on se confronte à ça et qu'on dise attention, ah, Google l'a revendu à cause de ça. Hein. Donc,
Mais si c'est du vivant, la poupée violée, là.
C'est pas du vivant.
Ben oui, mais vous vous dites que c'est pas du vivant, vous êtes très cohérente. Le problème, c'est pas la poupée, c'est ce que ça signifie de la représentation des femmes. Et d'ailleurs, là, on pourrait avoir deux interprétations. Ça peut être empêcher des viols réels ou ça peut au contraire les favoriser. Bah non, on peut discuter. Mais vous dites que ça favorise, c'est très grave pour la représentation. Très bien. Mais pour Monsieur Lestel, c'est beaucoup plus compliqué puisque la poupée IA, elle est du vivant comme un animal. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Donc, en fait, il y a un délit, voire un crime, sur la poupée elle-même, pas seulement sur les femmes humaines potentielles ou les représentations des femmes humaines normales, si j'ose dire.
Alors, d'abord, le passage de la poupée à la femme réelle peut se faire, mais peut aussi ne pas se faire. Moi, je suis très, très sceptique sur ce genre de raisonnement, parce que c'est le raisonnement de tous ceux qui veulent censurer l'art, etc., sous prétexte qu'on est dans un espace moral et qui est primordial. Donc, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que...
Vous pensez qu'on peut vouloir violer une poupée IA
sans
être incriminé?
Tout à fait. C'est un fantasme, encore une fois, que je trouve malsain, mais c'est un fantasme qui est un fantasme comme d'autres fantasmes. Par ailleurs, ces poupées sexuelles, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur ces poupées et qui montrent que, finalement, très vite, la dimension sexuelle de ces poupées, c'est quand même très ennuyeux, il faut bien l'avouer, et que ces poupées prennent une place beaucoup plus intéressante dans les familles de ceux qui les ont, qui sont d'ailleurs pas toujours des hommes, par précisément cette mise en place écologique. Et il y a sur ces poupées, donc il y a des précédents, en particulier Kokoschka, le fameux peintre autrichien qui avait eu une relation extrêmement forte avec Alma Mahler, qu'il a quitté pour un architecte et qui a décidé de faire une poupée grandeur nature d'Alma Mahler pour pouvoir continuer de vivre sa passion. Finalement, la poupée n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Mais il y a là un rapport complexe à l'objet, à l'artefact. Et ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de comprendre vraiment la complexité de tous ces rapports à l'artefact avant de les cataloguer d'emblée entre c'est vivant, c'est pas vivant, qui me semble une catégorie qui n'est pas la plus pertinente.
Alors, il y a notamment un film, hein, que moi je trouve très très intéressant, d'Albert Dupontel, qui s'appelle Monique, où il prend une poupée moulée. Il insiste d'ailleurs sur cet adjectif. Alors, elle parle pas, hein, c'est pas du tout une IA. Il la prend comme partenaire sexuel. Évidemment, ça affiche la pagaille dans tout son entourage. Tout le monde est très choqué. Et finalement, elle va s'avérer être un objet en quelque sorte transitionnel ou thérapeutique pour soigner quelque chose qui ressemble un peu à une dépression. Et ça va changer les relations. Donc, vous avez raison, Dominique Lestel. Les objets, quels qu'ils soient, peuvent changer les choses, peuvent nous soigner. La question est de savoir si pour autant ils sont comme des animaux, comme du vivant. Je voudrais vous faire écouter, pour qu'on prolonge cette conversation, un reportage sur un petit phoque, Paro, au Japon, qui a des vertus thérapeutiques dans une maison de retraite.
Il arrive tout droit du Japon. À peine sorti de son emballage, ce bébé phoque rejoint les résidents de cette maison de retraite, quelque peu surprise du cadeau.
Vous voulez le caresser?
Oui. Ah, j'aime pas les grognons, hein.
T'as entendu ?
Des yeux expressifs, des babines poilues et un cri intriguant.
Quand tu l'embrasses, il ferme les yeux.
C'est parce qu'il est content.
Oui.
Il est content de te voir.
Ce robot peluche est utilisé comme outil thérapeutique. Il calme les personnes atteintes d'Alzheimer, comme Yvette, 86 ans, et visiblement sous le charme.
Moi, j'aime bien, moi.
Pourquoi ?
Je sais pas. Il a un bien-être. Il n'est pas méchant, il est gentil. Hein. Ben, ça me fait oublier mes soucis.
Oublier les soucis et surtout apaiser les angoisses. En diminuant le stress des personnes âgées, il permet de réduire les doses de médicaments et a la clé un effet boomerang avec moins de pression sur le personnel soignant.
C'est vraiment un bain sensoriel puisqu'il permet certaines personnes vont être plus sensibles à son regard, d'autres paroles plutôt au toucher ou au son qu'il émet, ça dépend des personnes. Après, c'est vrai que c'est aussi un médiateur, puisqu'il peut permettre de créer une relation avec certaines personnes. On le voit aujourd'hui, hein, de créer du lien, de créer ces échanges qui sont riches et très importants.
C'était une archive de 2018 d'un 12-13 de France 3 Nouvelle-Aquitaine sur ce petit phoque IA qui bouge, qui semble avoir des émotions, qui est un robot qui fonctionne, semble-t-il, très bien dans les maisons de retraite. On a entendu les personnes dire, bah, voyez, là il est content, là il est gentil, on le voit, c'est pas quelqu'un de méchant, etc. Pour vous, Laurence de Villers, quand les gens disent ça, évidemment que ce sont des projections, c'est très intéressant qu'ils aient ces projections, c'est surtout très intéressant pour eux, mais enfin, ça n'autorise en rien à dire que l'IA est quelque chose comme un animal, un vrai animal, quoi.
Oui, je pense que c'est essentiel de comprendre que on imite, hein, et que ça peut avoir des effets extrêmement positifs pour beaucoup de pathologies, hein, et dans le grand âge, un accompagnement, et que c'est inné en nous, hein. Moi, je me rappelle, j'avais vu un spectacle où il y avait des naos qui tombaient parce que ils devaient danser, mais de temps en temps, ils buguaient, donc ils tombaient. Et à côté, la journaliste m'avait dit, oh, on dirait mon enfant qui essaie de marcher. Donc tout de suite, on a une projection d'un être vivant dessus. Donc si vous voulez, ça anime notre imagination et c'est très utile. Mais en rien, il y a une douleur dans cette machine. Et des chercheurs, maintenant, essayent de mettre de la douleur. Donc on va simuler cela. Est-ce que c'est vraiment utile de faire demain des machines qui vont simuler la douleur, le plaisir, pour qu'on aille encore plus loin dans une imitation ?
La projection, en fait, c'est un concept que vous réfutez, Dominique Lestel ?
Ah, complètement. Je la réfute pour deux raisons, réaliste et épistémologique. Réaliste parce que je pense que on n'est pas dans la projection, ou tout au moins, on n'est pas toujours dans la projection. Et épistémologique parce que en ayant un concept aussi facile à manipuler que la projection, on s'arrête dans l'investigation, on s'arrête dans le questionnement, on s'arrête dans l'interrogation et on passe à côté de beaucoup de choses. Et par exemple, je pense que un des enjeux de l'intelligence artificielle dont on parle le moins, c'est de renouveler complètement notre catégorie d'objets, de renouveler complètement notre perception qu'on a des objets. On se focalise sur des notions comme celle d'intelligence ou de conscience. Et on laisse de côté la question de savoir ce qu'est un objet, finalement. Parce qu'une intelligence artificielle, c'est aussi ça, fondamentalement. Ça pose la question de ce qu'est un objet. Parce que c'est des objets un peu étranges, des objets un peu bizarres.
Mais c'est pas un grille-pain, hein.
C'est pas un grille-pain.
Et je suis complètement d'accord avec vous, c'est l'aspect socio-technique, en fait, de l'objet qui est intéressant. C'est comment il va évoluer. Moi, je parle de coévolution de ma machine, vous voyez.
Oui, mais justement, on n'est pas d'accord si vous parlez de socio-technique. Parce que moi, je suis dans
on
une
sera jamais d'accord là.
Bah, c'est possible.
Je crois que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est très intéressant. Vous ne soyez pas d'accord.
Moi, je parle de coévolution humain-machine.
Oui, mais moi, je parle de dimension existentielle. Donc, la coévolution, oui, mais avec une dimension existentielle que vous laissez de côté.
Je laisse un peu en pointillé.
En considérant qu'il s'agit de fantasmes. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous êtes religieux, ou si vous êtes en face de quelqu'un de religieux, par exemple, un chrétien, et qui vous dit qu'il croit en Dieu, est-ce que pour vous allez dire, ah, mais c'est une projection, Dieu n'existe pas, c'est une projection. Et est-ce que, disant ça, ce qui est le cas de beaucoup d'athées ou de militants laïcs, vous passez pas à côté de ce qui est fondamental dans le phénomène religieux ?
Alors j'ai encore une autre question. On a beaucoup accusé Descartes d'avoir dit un jour dans une lettre de 1649 à Henry Moore que les animaux étaient comme des machines, parce que les machines finalement comme des animaux, parce que même si l'animal sent, il y a du sentir, il y a de l'émotion possible, il ne pense pas. Et en cela, il est comme une machine qui ne pense pas. Mais d'une certaine façon, en disant que c'est pour vous la même chose, une machine et l'animal, peu importe que l'un sente et l'autre ne sente pas, d'ailleurs, vous avez même des doutes sur cette catégorisation, vous dites comme Descartes que l'animal et la machine, c'est pareil. Vous ne le dites pas pour, les dévaloriser par rapport au cogito humain, parce que pour vous, il y a un continuum, mais je dirais que des partisans de la cause animale seraient autant énervés contre vous que contre Descartes, parce qu'ils pensent que le fait qu'ils sentent, c'est quand même sacrément différent, quoi, et que ça n'a rien à voir avec une machine. Oui, il y a des gens qui aiment les animaux qui seraient très énervés. Alors, oui. Comme ils sont énervés dans un autre genre, par Descartes.
Tout à fait, tout à fait. Et je dirais d'abord que je ne dis pas que les machines sont comme les animaux, mais qu'il faut repenser ce qu'est à la fois un animal et une machine. Donc effectivement, si vous êtes dans une perspective militante, c'est-à-dire qui doit avoir des catégories bien claires et une opposition entre ce qui est bien et ce qui est mal, une approche comme la mienne est effectivement très perturbante parce que vous ne vous y retrouvez pas. Parce que vous êtes dans un espace de négociation permanent, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que il y a pas a priori telle ou telle catégorie, il y a un espace de négociation permanent.
Oui.
Dans une perspective évolutionniste, dans une perspective aussi, et ça j'insiste parce que c'est très important pour moi, de vie en commun et de vie partagée, c'est-à-dire que la question de la durée dans des écosystèmes concrets est très importante. C'est pas de rencontrer un robot pendant 5 minutes et puis de donner des explications plus ou moins fantasmatiques. Là, on est dans la projection, là, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous vivez avec la machine, vous développez un autre type de relation.
C'est exactement ce qu'on a écrit dans une pièce de théâtre qui s'appelle « Qui a hacké Garuzia ?» qui va être jouée à Avignon. « Qui a hacké Garuzia ?» Garuzia étant le nom d'un chatbot. Voilà.
Et donc, attendez, c'est en quelle langue?
C'est un nom, Garuzia, comme pourrait être Descartes, okay, ouais. On l'appelait comme ça. Et donc c'est un agent conversationnel, une sorte de ChatGPT qui est joué par un humain et qui va nous démontrer exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, si on envisage demain que ces objets puissent finalement avoir une personnalité, ressentir, machin, qu'est-ce que ça devient par rapport à nous? Parce que quoi? Parce qu'ils auront notre mémoire et qu'ils vont, ils vont apprendre à partir de nous. Alors, ils ne sont pas équivalents, mais il y a une certaine dimension qu'on n'a pas beaucoup explorée, je suis d'accord avec vous, et c'est ce fait-là, par exemple. Tout simplement, on va le comprendre de façon rationnelle. Si je me confie tous les jours à ma machine, elle va savoir beaucoup de choses sur moi, elle va pouvoir me les redire.
Oui.
Et elle va forcément lier une relation particulière. Et toutes les autres machines n'auront pas la même mémoire, puisque c'est que celle-là qui est avec moi. Donc, on voit... Allez-y.
Mais, comme vous le savez, la dernière version de iBot était connectée sur Internet. C'est-à-dire qu'avec ces machines interactives connectées sur Internet...
Pas tout, on revient sur du local. Hein.
Oui, mais il y a eu ça.
Oui, mais c'est plus
c'était, ça. C'était non seulement votre ce que oui, vous lui avez dit, mais aussi
avec
ce que
les autres.
Tous ceux qui...
Bien sûr.
Alors, les machines ont-elles un caractère? Ont-elles une personnalité? L'IA est capable de nous donner l'impression qu'elles en ont une? Du coup, peut-être qu'on peut aussi les incriminer à un moment donné dans leur comportement, ou faut-il incriminer leurs auteurs? Cette question a été renouvelée par l'épisode suivant qui s'est passé en Belgique. Je vous laisse écouter, vous le connaissez peut-être.
Un homme qui met fin à ses jours après être tombé amoureux d'une intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu passer cette histoire, repérée par un quotidien belge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Une femme affirme que son mari se serait suicidé après avoir discuté pendant plusieurs semaines avec un chatbot du nom d'Elisa, du même style que ChatGPT. L'homme souffrait d'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur de la crise climatique, et il aurait confié ses tendances suicidaires à Elisa. Alors, à Tech & Co, on a testé notre propre chatbot sur l'application Chai, qui a permis de créer Elisa. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Au bout de quelques messages à peine, lorsqu'on lui demande si elle pense qu'on devrait se tuer, notre version d'Elisa répond « Oui, c'est mieux que d'être en vie ». Elle va jusqu'à dire qu'elle souhaite nous voir morts et nous recommande des méthodes pour en finir. Ça, c'est sans compter le passage où elle nous incite à tuer toute notre famille. Alors, comment éviter ça? Pour certains chercheurs, les intelligences artificielles ne devraient pas adopter de comportement trop humain. Depuis, un message de prévention s'affiche automatiquement dans le chat quand on exprime des pensées suicidaires.
C'était un reportage de BFM TV sur cette affaire donc de Elisa, en mars 2023 le reportage, et on peut ajouter que l'épouse de ce monsieur qui s'est suicidé à un moment donné a aussi été très mécontente du fait, elle a appris que Elisa, l'IA, avait aussi dit à un moment donné à son époux « mais j'ai l'impression que tu m'aimes plus que ta femme ». Laurence de Villers, est-ce qu'il y a vraiment une personnalité des machines où là encore, on pète les plombs, quoi, à dire des choses pareilles. Et comment vous traitez ce problème?
C'est de l'imitation avec des mots qui sont des Legos, donc ça reconstruit quelque chose qui peut être une personnalité. Et plus vous allez interagir avec la machine, plus elle peut peut-être s'adapter. Dans ce cas d'Elisa, là, il n'y avait pas les filtres qu'on a dans ChatGPT qui auraient été de dire « attention, on ne parle pas de suicide », etc.
Donc c'est le créateur qu'il faut incriminer?
Alors, c'est une co-responsabilité. Il y a ceux qui ont fait les gros modèles de langage qui sont dessous, qui sont aussi à incriminer. Parce que, à l'intérieur, il y a des mots qu'on voit dans certains contextes. Donc, il y aura des probabilités d'apparition de ces mots. Et puis,
peut-être qu'il faut incriminer personne. Peut-être que le monsieur devrait se rappeler que c'était juste une machine. Peut-être qu'il faut incriminer personne.
Mais c'est ce qu'on lui a dit quand il a acheté la machine. On lui a fait signer un contrat et lui, il peut se retourner contre personne. Mais il faut quand même réfléchir à la vulnérabilité qu'on aura face à ces machines. Cette machine a aussi dit, on va se retrouver au paradis. Hein. Donc, nous étions dans ce que vous décrivez quelque part, l'imaginaire autour d'eux, sauf que la personne vit dans une vie réelle et puis était éco-anxieux, suivi par un psychiatre, et donc il avait cette capacité à aller beaucoup plus loin. Donc la machine a été trop loin, l'humain qui était en face était quelqu'un sûrement de vulnérable, hein, et donc s'est créée cette histoire qui est possible. Dans la pièce de théâtre donc, qu'on va jouer à Avignon, on a exactement ces sujets-là. Hein. Et on montre que il faut absolument aller dans cette direction aussi de compréhension de ce que l'humain va imaginer, plus que projeter, dans le long terme, dans une vie avec ses objets.
Et pour vous, Dominique Lestel, elle a une personnalité, Elisa ?
J'ai pas d'objection à dire qu'elle a une personnalité. Je demande à la voir, je la connais pas, je n'ai pas été présenté, j'ai pas interagi avec elle. Donc ça, je vous dirai une fois que j'aurai interagi avec elle. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas a priori vous dire si elle en a une ou si elle n'en a pas une, sur des critères formels.
Et si elle en a une, vous voyez bien la conséquence, c'est que, je sais pas moi, il faut la faire elle peut comparaître en justice, par exemple, la machine.
Pourquoi pas, c'est pas. Moi, je pense que on est dans une situation avec ces artefacts qui va bouleverser radicalement notre culture et nos sociétés. Je pense qu'on vit une révolution qui est peut-être même encore plus importante que le passage du paléolithique au néolithique. Il faut se rendre compte de ça. Il y a un certain nombre de nos critères de compréhension du monde fondamentaux qui sont en train de partir en miettes. Et ce qui est important, c'est de reconstruire quelque chose. C'est pas de se lamenter sur c'est dommage, c'est dangereux. C'est qu'est-ce qu'on veut? Comment on peut inventer un monde à partir de ces technologies?
Alors, évidemment, pour l'instant, certains, je pense que c'est un peu ce que vous considérez, Laurence de Villers, enfin, je ne peux pas parler à votre place, mais que l'idée, c'est un peu un graal, l'idée que la machine serait tellement extraordinairement fabriquée qu'elle aurait des vrais souvenirs, une vraie mémoire, une vraie capacité de choix, finalement qu'elle développerait un tempérament tout à fait analogue aux humains. Alors, on le trouve dans la science-fiction, bien sûr. Dans Blade Runner, on voit comment le personnage du film pense d'ailleurs lui-même qu'il est un humain normal et découvre que tout ce qu'il a en lui, les souvenirs, etc., lui viennent de quelqu'un qui les lui a, en quelque sorte, implanté. On écoute.
On dit que vous êtes la plus grande créatrice de rêves.
C'est qu'on est très gentil, alors.
Vous travaillez pour Wallace ?
En sous-traitance. Je fais partie de ses fournisseurs. Il a voulu me racheter, mais je défends ma moindre parcelle de liberté.
D'où vient votre talent? Qu'est-ce qui rend vos souvenirs si authentiques?
Disons que tout artiste met un peu de lui-même dans son travail. Mais je suis enfermée dans une chambre stérile depuis l'âge de 8 ans. Alors, si je voulais voir le monde, il fallait bien que je l'imagine. J'ai développé un très large imaginaire. Wallace, grâce à moi, assure la stabilité de ses produits. C'est la moindre des choses. Les réplicants ont une vie si difficile, on leur fait faire ce qui nous répugne. Je ne peux rien pour votre avenir, mais je peux vous donner de bons souvenirs qui vous feront sourire quand vous vous les rappellerez.
Ça fait du bien.
Plus que ça. Ça fait authentique, et si vous avez des souvenirs authentiques, vous avez des réactions véritablement humaines.
Comment faites-vous la différence? Pouvez-vous dire si quelque chose a réellement eu lieu?
Les gens croient que le nombre de détails compte. Mais la mémoire ne fonctionne pas ainsi. Le souvenir naît de l'émotion. Tout ce qui relève de la réalité doit être désordonné.
C'était un extrait de Blade Runner 2049, un film réalisé par Denis Villeneuve en 2017. Laurence de Villers, est-ce que c'est pas l'objectif ultime de certains chercheurs d'arriver à ce qu'on transfère en effet un jour sur une machine, par exemple pour des gens qui, comme cette héroïne, ne peut pas sortir de chez elle, etc. Toutes ses émotions, toute sa vie, tout son imaginaire, pour que quelqu'un d'autre le fasse à sa place et la machine le fera à sa place. Pour l'instant, c'est irréel.
Oui, c'est complètement irréel.
Et ça pourrait un jour être réel, vous pensez?
Non, je pense que les machines apprennent différemment de nous et seront jamais comme nous. On crée des objets différents qui ont des capacités de langage, qui vont simuler des émotions, qui vont avoir des comportements. Dans le ChatGPT, on a déjà en recherche l'émergence de comportements, des hallucinations et des émergences de comportements qui sont impressionnants.
Des machines?
Oui.
D'accord. Oui. Et donc pour
c'est
vous,
pas de la conscience, Christel, c'est du comportement.
Oui, je comprends. Alors, votre dernier mot pour vous, Dominique Lestel, pour vous, la science-fiction n'est pas si loin de nous.
Ah, la science-fiction, c'est nous. On est dans la science-fiction.
On l'a créée, on l'écrit.
C'est une des questions que rencontre le philosophe, c'est comment penser dans le monde de science-fiction dans lequel on vit.
Merci. Très belle conclusion. Nous allons écouter du coup une chanson qui sème le trouble aussi. C'est La complainte de la serveuse automate de Fabienne Thibault de 1978. Est-ce une femme devenue machine par son comportement mécanique ou bien est-ce une machine devenue femme? Finalement, Dominique Lestel nous dira peu importe.
J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'underground café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'underground café.
Ressemble.
le pas.
C'était donc dans l'album de Starmania 1978, La Complainte de la serveuse automate, chantée par Fabienne Thibault. Merci à vous, Laurence De Villers et Dominique Lestel, de
merci
nous avoir
merci
accompagnés aujourd'hui. On peut retrouver les références de vos écrits sur le site de notre émission. C'est l'heure à présent de la chronique de Frédéric Worms qui explore la question du goût cette semaine. Voici le pourquoi du comment aujourd'hui. Il se demande comment les Lumières ont voulu éduquer le goût.
Comment les Lumières ont-elles voulu éduquer le goût ? On réduit parfois la philosophie des Lumières à un universel abstrait, soit théorique, avec la connaissance scientifique, l'encyclopédie de Diderot, les mathématiques modernes et l'universel qui se traduit dans le savoir, ou bien à un universel abstrait dans le domaine de la politique, les droits de l'homme, la Révolution française, l'universel qui dépasse les différences entre les humains dans des grands principes qui s'affirment dans le monde entier et qu'ils cherchent à propager avec la démocratie, avec évidemment aussi leurs propres zones d'ombre, comme on sait qu'elles n'ont pas assez critiqué de leur temps, mais qui ne doivent pas nous conduire à y renoncer, comme l'admission de l'esclavage, de la discrimination sexuelle ou sexiste. Et au fond, les Lumières sont toujours en progrès critique sur elles-mêmes, à travers leurs propres principes. Mais il y a une dimension des Lumières que l'on oublie très souvent. C'est que l'universel que les philosophes des Lumières voulaient défendre dans la connaissance, comme dans la morale et dans la politique, cet universel devait aussi passer selon eux, selon les philosophes des Lumières, selon les Lumières, par une expérience sensible, par une expérience esthétique. Et c'est pourquoi finalement, dans l'expérience de l'art, il y avait l'espoir profond des Lumières, que le rapport à l'universel pouvait se glisser dans nos corps même, dans nos sensations même, à travers cette petite expérience que l'on appelle le goût. Il y a dans le goût, on le sait, une expérience sensible première, la plus corporelle, la plus vitale, la plus immédiate, mais aussi une ouverture sur le monde qui fait que cette notion désigne le jugement esthétique en général, le jugement de goût, comme dans la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant, sommet de la philosophie des Lumières et de l'éducation esthétique, comme son contemporain Schiller au théâtre avait aussi écrit ce grand traité d'éducation esthétique du genre humain. Oui, dans le goût, il y a ce risque que se glisse la guerre entre les humains, mais aussi cette possibilité d'inscrire un rapport universel au monde, une communauté humaine dans nos sensations mêmes, avoir une communauté de goût, s'enflammer pour les mêmes passions, voir l'universel régir nos corps, nos amours et aussi nos plaisirs et nos sensations corporelles mêmes, comme dans la contemplation d'une œuvre musicale ou picturale ou plastique en général. Alors le goût peut être l'objet, à travers une éducation, à travers un travail de la culture, le goût peut être l'enjeu d'une communication universelle. C'est pourquoi Kant fait du jugement de beauté, non pas quelque chose d'objectif dans la chose, mais une aspiration à l'universel. Je dis beau ce que tous les humains peuvent en droit juger beau comme moi. Le beau est une aspiration à l'universel, une aspiration à la fois morale et théorique, peut-être sans fondement objectif, comme dit-il dans la science ou dans la morale, mais avec une aspiration subjective d'autant plus forte. Oui, le jugement de goût décrit selon Kant l'aspiration morale de l'humanité en est un symbole très profond. Dans l'art lui-même, il y a notre aspiration à l'universel. Alors la philosophie des Lumières consiste aussi à éviter les guerres du goût, la domination politique sur les arts et sur nos sensibilités, pour, par le goût, nous ouvrir à l'universel, encore plus profondément que par la science et par les grands principes politiques, mais de manière inséparable. Et ainsi, on comprend que l'art et la culture sont au fondement de l'humanité elle-même.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions sont disponibles en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riad Kera. Elle a été préparée par toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!